Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La parole de Dieu apporte une véritable espérance dans notre monde tourmenté. C'est pourquoi nous vous exhortons à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui seul a le pouvoir de combler les cœurs.
Aujourd'hui, Yann et notre invité Alain continuent leur discussion sur le livre de Job.
Quand un malheur nous arrive, un accident ou une maladie par exemple, nous voulons comprendre pourquoi, qui est responsable, qui peut en blâmer, à qui la faute. Voilà des questions fondamentales qui sont soulevées dans le livre de Job, et nous y réfléchirons afin de trouver des réponses à ces mystères. Job était un homme qui avait tout. Une grande famille, un élevage de bétail prospère, une bonne santé et une bonne réputation. Souvenez-vous toutefois que cet homme a tout perdu, en peu de temps et dans des circonstances dramatiques. Et il s'est demandé pourquoi. Alors qu'il souffrait terriblement d'une maladie de la peau et se trouvait dans le deuil, trois de ses amis sont venus lui rendre visite. Ses amis ont tout d'abord compati à la douleur de Job, en gardant le silence. Puis ils se sont mis à discuter avec lui, et la question qui fut au centre de leur débat fut « Pourquoi la souffrance de Job ?» La plupart du livre de Job nous relate les détails de cette discussion, qui devenait par moments animée et hargneuse, car Job et ses amis ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Alain, pourquoi donc ce désaccord?
Oui, à l'époque de Job, tout le monde pensait que si l'on vivait un drame quelconque, c'était parce que l'on avait commis une faute qui méritait ce châtiment. Donc, les amis de Job considéraient qu'il y avait un rapport de cause à effet entre un péché et une épreuve. L'épreuve pour eux était envoyée par Dieu pour corriger ou pour punir le coupable. Ainsi, nous ne sommes pas surpris de découvrir que les amis de Job cherchaient à connaître quelle faute Job avait bien pu commettre pour mériter un tel châtiment, puisque de terribles catastrophes s'étaient abattues sur lui.
Donc les amis de Job l'accusaient d'avoir commis des fautes très graves.
Oui, et ils souhaitaient qu'il se remette en question. Mais Job refusait d'admettre cela. Alors ses amis ont tenu à son égard des propos accusateurs de plus en plus hargneux.
Job ne s'est donc pas remis en question alors. Et pourquoi? Comment a-t-il réagi?
Job criait son innocence. C'était un homme droit et pieux qui craignait Dieu et s'écartait du mal. Selon lui, les épreuves qu'il subissait étaient tout à fait démesurées par rapport aux fautes qu'il avait pu commettre. Job pensait que dans son cas au moins, la pensée traditionnelle de l'époque ne pouvait s'avérer juste et qu'il ne pouvait donc pas toujours y avoir un lien direct entre la souffrance et le péché. Job se trouvait dans la confusion, car cette nouvelle affirmation remettait en question tout ce qu'il avait cru ou appris jusqu'alors. Dieu lui révélait quelque chose de nouveau, et Job devait s'appuyer sur de nouveaux fondements pour progresser dans sa foi.
Et comment les amis de Job ont-ils répondu à ces protestations, puisque Job continuait à clamer son innocence ?
Ses amis ne pouvaient pas concevoir que la pensée traditionnelle fût erronée. Ils insistaient donc, certains qu'un péché secret se trouvait dans le cœur de Job, un péché qu'il devait confesser et auquel il devait renoncer pour voir les bénédictions de Dieu abonder à nouveau dans sa vie.
Je peux comprendre que si chacun des deux parties est resté sur ses positions, le débat a dû se transformer en dispute. Le livre de Job nous présente donc deux réponses à la question « Pourquoi souffre-t-on ?» Et il faudrait trancher maintenant. Le livre nous dit-il qui avait raison ?
Quand Dieu finit par intervenir dans ce débat, c'est surtout pour soutenir et défendre Job. Nous lisons par exemple « L'Éternel s'adressa à Éliphaz et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes deux amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Nous avons vu la dernière fois la véritable raison pour laquelle Job souffrait. Or, cette raison était ignorée de lui et de ses amis.
Oui, je m'en souviens. Satan avait accusé Job de servir Dieu par intérêt. Et il avait suggéré que si de grands malheurs le frappaient, Job ne resterait alors ni droit ni pieux. Donc nous pouvons affirmer que si Job a souffert, Ce n'est pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était bon.
C'est exact. L'une des leçons la plus importante du livre de Job est celle-ci. Si l'on subit des drames, des épreuves, si l'on souffre, ce n'est pas forcément parce que l'on a commis une faute. L'on ne peut expliquer les choses aussi simplement. La réalité est beaucoup plus complexe.
Donc, à travers l'expérience de Job, il y a 3000 ans, Dieu a tranché sur une question importante au sujet de la souffrance. Mais aujourd'hui, avons-nous compris cette leçon? Ou les gens pensent-ils toujours comme les amis de Job?
Nous ne pouvons pas généraliser. Cependant, je crains que beaucoup de gens aujourd'hui aient tendance à penser comme ses amis. Il est naturel, lorsque nous souffrons, de se demander pourquoi. Cependant, il me semble que beaucoup se posent aujourd'hui aussi une autre question. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Également, lorsque l'on apprend qu'une personne vit telle ou telle épreuve, certains ont le réflexe de se demander « Mais qu'a-t-elle pu faire pour attirer sur elle ce malheur ?» D'autres encore peuvent penser « Si je suis malade, c'est parce que quelqu'un a dû me jeter un sort. Qui est-ce? Et qu'ai-je fait pour offenser cette personne ?» Le livre de Job nous apprend que ces affirmations ne sont pas toujours justes. Elles peuvent l'être, parfois, car des esprits mauvais peuvent être responsables dans certains cas de malheur, auquel cas il faut implorer Jésus de nous délivrer de leur action tout en lui confessant nos péchés. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il peut y avoir aussi d'autres raisons à la souffrance, des raisons qui peuvent dépasser notre entendement.
Nous arrivons donc à la conclusion que la souffrance n'est pas toujours la conséquence d'une faute. Mais peut-on aller jusqu'à dire que l'épreuve n'est jamais le résultat d'un châtiment?
En déduire cela, c'est tomber dans le piège de trop vouloir simplifier la réalité. Nous devons plutôt dire que la souffrance peut quelquefois être le résultat d'un péché. Parfois, Dieu nous corrige effectivement suite à une faute commise en permettant à une épreuve d'arriver. Permettez-moi de prendre un exemple d'actualité.
Je vous en prie, quel est-il?
Il s'agit du sida. Cette épidémie fait des ravages et suscite beaucoup de craintes et d'idées erronées. Si les amis de Job étaient encore en vie, je suis sûr qu'ils diraient des personnes souffrant de cette maladie, qu'ont-elles fait pour mériter un tel châtiment? Les amis de Job penseraient sûrement qu'un péché grave en serait la cause.
J'imagine que beaucoup aujourd'hui pensent ainsi, mais ont-ils raison en ce qui concerne le sida?
Il est vrai que de nombreuses personnes attrapent le sida à cause de leur inconduite sexuelle. Dans ce cas précis, on peut dire qu'il y a un lien direct entre le péché et la maladie. Toutefois, bien d'autres personnes contactent le sida alors qu'elles n'ont jamais eu de relation adultère. Pensez aux femmes fidèles qui l'attrapent de leur mari infidèle. Pensez aux bébés nés avec cette maladie parce que leur mère l'avait avant même leur conception. Ces personnes souffrent, et pourtant elles n'ont rien fait pour mériter un tel sort. À leur tour, elles peuvent s'identifier à Job et clamer leur innocence.
Oui, cet exemple montre qu'effectivement, les questions soulevées sur le sujet de la souffrance restent complexes. Et suite à notre discussion, je réalise que nous ne devons pas accuser ou condamner des personnes qui souffrent. De telles attitudes ne peuvent qu'aggraver leur peine.
C'est exact, Yann. Et en fait, ce sera le sujet de notre prochaine discussion ensemble. Que peut-on dire à ceux qui souffrent? Et que faut-il s'abstenir de leur dire? Avant de terminer, j'aimerais juste revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure au sujet de ceux qui sont frappés par la terrible maladie du sida. Si une personne est affligée de cette maladie, que ce soit à cause de sa propre inconduite ou que ce soit injustement suite à l'inconduite d'un autre, nous devons éprouver envers elle beaucoup de compassion et lui apporter l'espérance de l'Évangile. En agissant ainsi, nous suivrons l'exemple de Jésus. Nous devons éviter de prendre exemple sur les amis de Job qui jugeaient ou condamnaient trop facilement.
À présent, Jean-Yves va commencer une nouvelle série de méditations bibliques portant sur la parabole de la brebis perdue, selon l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 4 à 7. Hélène va nous la lire.
Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Et quand il a trouvé, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. »
Nous remarquons que, dans la nature, un animal séparé de sa famille ou de son troupeau devient une proie facile pour les prédateurs, tels que le lion par exemple. De même, un animal blessé, laissé en arrière par son groupe, se trouve exposé à tous les dangers de la brousse ou de la forêt. Perdu et vulnérable, de tels animaux ne tarderont pas à trouver la mort. Il en va de même pour la brebis évoquée dans la parabole de Jésus. Une brebis qui se sépare de son troupeau ne bénéficie plus de la protection de son berger. Quand une brebis s'en écarte, elle s'expose à tous les dangers. La faim et la soif dans les régions arides, les chutes, mais surtout le risque de se faire manger par des bêtes sauvages, car elles ne manqueront pas cette occasion d'un bon repas. Mais pourquoi Jésus parle-t-il de brebis perdues ? Un regard dans le livre du prophète Ésaïe éclaire ses propos. À un moment donné, Ésaïe affirme « Nous étions tous comme des brebis perdues, chacun suivait son propre chemin. » Ainsi, nous devons comprendre que la brebis perdue évoquée par Jésus représente chacun et chacune d'entre nous, sans exception. Pourquoi ? Parce que le prophète dit « Nous sommes tous, tous, comme des brebis perdues. » Ainsi, le sort de cette brebis devrait nous intéresser de près. Comment cette brebis s'est-elle séparée de son troupeau ? Le prophète éclaire encore une fois les paroles de Jésus par cette précision. Chacun suivait son propre chemin. Une brebis se perd lorsqu'elle cesse de suivre les traces de son berger. Elle s'égare quand, au lieu d'écouter la voix de son maître, elle va où bon lui semble. Une brebis peut être attirée dans un chemin qui lui semble attrayant dans un premier temps, mais qui s'avère conduire par la suite à la séparation et à l'isolement, parce que ce chemin-là est trompeur et dangereux. Quelle leçon devons-nous donc en tirer ? Tout comme cette brebis, nous sommes perdus et en danger si nous n'écoutons pas le Seigneur, si nous refusons celui qui se présente tout au long de la Bible comme notre berger. Au lieu de fonder nos vies sur la parole de Dieu, nous préférons suivre nos propres voies, nos propres raisonnements sur ce qui semble bon ou non. Nous sommes attirés par tellement de choses semblant offrir le bonheur que nous nous éloignons de celui qui peut nous garder sur un chemin de paix et de joie véritable. Lorsque nous nous entêtons à suivre nos propres idées, nous découvrons, tôt ou tard, que ce chemin nous mène à des ennuis, des malheurs et enfin à la mort. Nous pouvons nous sentir perdus, seuls et en danger, parce que loin de la main protectrice et de la voix rassurante de notre berger, le Seigneur. Ne nous désespérons pas toutefois, car la parabole de Jésus offre un espoir, et nous le découvrirons dans les prochaines émissions d'Espérance aujourd'hui.
Nous vous encourageons à vous tourner vers le Seigneur Jésus et à marcher avec lui. À bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.